Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bienvenue dans Radio Foot International en cette fin d'après-midi pour évoquer le parcours sans faute du PSG en cette saison 2017-2018. La Coupe de France était hier le troisième trophée que les Parisiens pouvaient gagner. Peut-on pour autant parler de saison réussie pour ce club du Qatar très ambitieux? Neymar, le joueur le plus cher du monde, a-t-il changé cette équipe, justifiant son transfert? À la lumière de cette dernière finale, un bilan s'impose. Manuel Neuer a-t-il dit auf Wiedersehen à la Coupe du Monde? Le report incessant de son retour au Bayern, qui ne se fera finalement pas pour les deux derniers matchs, hypothèque désormais ses chances de présence en Russie avec les Allemands qui remettront leur titre en jeu. Antoine Griezmann au cœur d'une dispute entre son club, l'Atlético Madrid, et le FC Barcelone, qui voudrait l'attirer dans ses rangs, même en payant 100 millions d'euros. Une polémique inutile, une polémique qui peut troubler le joueur à une semaine d'une finale européenne. Eh bien, nous en parlerons avec nos invités. Habib Bey, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Est-ce que votre cœur de Marseillais est heureux?
Oui, bien sûr, très très heureux, très heureux.
Surpris?
Non, pas surpris au vu de ce que montre cette équipe en termes de débauche d'énergie et d'enthousiasme. Je trouve que c'est une juste récompense.
Bruno Salomon de France Bleu Paris, bonjour.
Salut Annie, bonjour à toutes et à tous.
Content du PSG?
Oui, heureux aussi. Pas autant de débauche d'énergie du côté parisien, mais bon, écoutez, hein, on ramasse ce qu'on nous tend. Hein.
On va en parler. Étienne Moiti de l'équipe, bonjour.
Bonjour, et à moi, on me demande pas qu'est-ce que je pense de mon club.
Non, mais vous êtes entre les deux, j'imagine.
Parce que nous, on fait une très bonne, très mauvaise saison, c'est le C à Paris, on est en championnat du dimanche matin, ça va pas très bien.
Là, et il s'est blessé, vous verriez comment il traîne la patte.
Comme un vrai joueur de foot au lendemain. D'une joute sérieuse. Hugo Moissonnier, bonjour.
Bonjour Adi, bonjour à tous.
Vous êtes rentré entier du Stade de France. Hein.
Oui, c'était moins nerveux qu'à Salzbourg, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, il m'avait demandé de le faire vibrer, Habib Bey. J'espère que
j'ai tenu. Vous avez été très bon, Hugo. Vous avez été très, très bon.
Ça me touche beaucoup.
Vous avez laissé le suspense jusqu'au bout. Nous, on savait que ça, Rolando l'a marqué.
Exactement, j'ai attendu les dernières minutes avant de sortir la carte au Rolando.
Allez, Radio Foot, c'est parti. Clapping vendéen, le clapping des Herbiers avec leurs supporters hier, une vraie communion en fin de match, match qu'ils n'ont pas remporté, donc ces petits poussés de la Coupe de France, mais l'ogre ne les a pas vraiment croqués avec facilité. Ils ont vendu cher leur peau, résistant aux vagues, aux attaques, aux tirs aussi parfois imprécis des Parisiens. Ils rentrent en tout cas avec les honneurs, les Vendéens dont l'histoire a ému la France entière, puisque la chaîne qui retransmettait hier soir le match a battu des records d'audience, plus de 6 millions de téléspectateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était le double de téléspectateurs de ceux qui y avaient assisté l'an dernier lorsque c'était Angers et le PSG. Finalement, un petit poussé, ça fait plus vendre que le club de Ligue 1.
C'est normal, Annie. Imaginez-vous, vous dites, bon, je vais pas regarder, c'est les Herbiers PSG. Puis d'un coup, vous regardez votre smartphone, vous dites, quoi? Que 1-0, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis voilà, vous voulez le savoir. Voilà,
tout
le monde se met sur la 2 pour regarder ce qui va se passer si ce petit poussé est capable d'aller mettre le but au Paris Saint-Germain. Voilà, ça m'étonne pas finalement ces chiffres. Effectivement, en GPG.
Il y avait surtout des gens qui n'aiment pas trop le foot et qui tout d'un coup étaient émus par cette belle histoire.
Parce que, c'est une belle histoire, c'est vrai.
On en a beaucoup parlé donc des Herbiers, mais le PSG a remporté, ça on l'a dit aussi, son troisième titre de la saison. C'était une quatrième Coupe de France consécutive, la 12e de son armoire, hein, c'est ça hein.
En 48 ans d'histoire, oui.
Pas mal. Et ils ont déjà remporté la Coupe de la Ligue cette saison, ils sont champions de France. Cette nouvelle victoire, cependant, il ne faut pas la banaliser, en tout cas c'est ce que dit Kevin Trapp, le gardien.
Il faut pas banaliser, c'est énorme, c'est une très belle chose pour l'image du club, pour l'équipe, parce que ça démontre aussi un peu l'effort qu'on fasse. Et c'est important, on a des objectifs, on est ici pour gagner les trophées, les titres, bien sûr. Ça part un peu de la Ligue des Champions, après ça c'est la plus grande chose, mais c'est un chemin qui est difficile, qui est long, il faut continuer à travailler, ça c'est sûr. Mais quand même, c'est une bonne chose de continuer à gagner les titres nationaux.
continuer à gagner des titres nationaux ou nationaux plutôt, en tout cas ne pas banaliser à l'allure de cette finale un peu particulière. Est-ce qu'on peut dire que le PSG fait le minimum qu'on attend de lui, Bruno ?
Ah bah écoutez, cette saison, on rappelle juste que l'an dernier, ils n'avaient pas le titre de champion de France. Cette année, ils reprennent le titre de champion de France sur le territoire. Leur saison est quasi parfaite. Et juste rappeler quand même qu'en Coupe nationale, c'est 42 victoires consécutives. Vous mettez la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, c'est une machine. Je me rappelle d'avoir discuté avec Jean-Marc Pidorger, un ancien glorieux du Paris Saint-Germain, qui m'a dit, il n'y a qu'un truc qui est bien, c'est qu'au PSG, on est tout le temps concentré. Parce que comme c'est un club qui est comme ça, qui est tout le temps avec des soubresauts, la Coupe de France, ça te permet de te concentrer jusqu'à 90 minutes. Le championnat, c'est un petit peu plus compliqué avec les remous qui vont bien. Ce PSG est une machine de guerre dans tout ce qui est, eh bien, coupe. Et pour moi, c'est pas une saison réussie parce qu'il y a un huitième de finale complètement gâché, galvaudé face au Real Madrid. Après, c'est quand même une belle saison sur le plan national. Ils ont plié l'affaire en plus extrêmement rapidement. Même limite, on se demande, ouais, il y a quand même deux, trois championnats dans le championnat, quoi. Ils sont devant avec 20 points d'avance et après derrière, il y a, ce qui est un peu, y a des cassures de partout, quoi.
Tu le suspenses en plus, ils se mobilisent pour les coupes. Alors, on a l'impression qu'elles ne sont qu'à eux. Le match hier, vous les avez trouvés à la hauteur de l'enjeu et de l'événement, Habib?
Mais moi, je les ai trouvés sur surtout investi et appliqué par rapport au, en fait, au comportement, par exemple, d'un Cavani qui, quand il n'obtenait pas une faute, il était derrière l'arbitre, il était motivé. Moi, ça, c'est des signes qui sont importants pour moi. Après, bien sûr qu'on attendait du Paris Saint-Germain peut-être qu'il gagne 6, 7, 8, 9, 10, 0 vu de l'écart entre les deux équipes, mais c'est aussi ça la beauté de la Coupe de France. On l'a créé pour que ça soit une fête. Je pense qu'Étienne connaît bien l'histoire aussi de cette compétition beaucoup plus que moi. Mais de voir les Herbiers ici présents sur cette finale, c'est que déjà ils l'ont mérité. Ils ont aussi deux jambes, une tête et deux bras, et qu'à un moment donné, le football, il faut le remettre dans son contexte. C'est 11 hommes contre 11 hommes, comme le dit Stéphane Guy, avec des différences de qualité bien sûr entre ces deux équipes. Mais encore une fois, je crois qu'ils ont fait le métier. Ils ont encore un trophée, et ça, il faut pas le banaliser. Moi, j'ai eu la chance de jouer des finales, et j'en ai perdu aussi contre des équipes qui était considéré comme plus faible que la mienne. Donc à partir de là, on peut remettre dans le contexte et de dire que si Paris Saint-Germain gagne tous les trophées nationaux, c'est aussi que c'est une grande équipe sur le plan national. Ils ont échoué en Ligue des Champions, mais ils ont échoué encore une fois peut-être contre le futur vainqueur de cette compétition. Ça, il faudra aussi le remettre en perspective lorsqu'on jugera le Paris Saint-Germain et qu'on leur a demandé de gagner les trois titres nationaux. C'est ce qu'a fait Unai Emery et cette équipe. Après, on sera toujours en attente et en exigence de cette équipe puisqu'ils ont dépensé 400 millions d'euros, qu'ils ont des joueurs exceptionnels. Mais si on regarde dans les différents championnats européens, c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les équipes qui gagnent tous les trophées nationaux. Mmh, donc à partir de là,
justement,
c'est
par
quand
exemple,
même malgré tout une vraie performance.
Le Real Madrid ne gagne pas. Regardez,
c'est pas dans tous les pays non plus qu'on a un champion et qu'on a une équipe qui domine autant et qui a des moyens financiers qui sont tellement plus importants que ceux de ses rivaux. Parce que bon, moi je veux bien que ce soit une saison réussie du Paris Saint-Germain parce qu'ils ont gagné les trois titres nationaux. Franchement, qui va s'en rappeler de ces titres-là? Mais qui va s'en rappeler? Parce que la saison dernière, quand il y a eu un petit peu...
Toi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que quand t'es joueur de foot,
quand il y a eu de l'adversité, on est quand même obligé de le faire. Je sais bien que ça se fait pas, mais moi j'ai quand même envie de le faire un tout petit peu parce que cette saison, le Paris Saint-Germain, il est champion facilement. Mais la saison dernière, quand il y avait de l'adversité, quand c'était Monaco avec une vraie équipe, ils ont pas été champions de France. Évidemment, Monaco a perdu.
Il a pas été non plus alors qu'il avait une équipe qui était première.
Monaco a perdu la moitié de son effectif, tous ses meilleurs joueurs. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain, et tu l'as dit toi-même, a recruté pour 400 millions d'euros, deux records de transfert dans l'histoire du football dans le même été. Franchement, je veux dire, si t'es pas champion avec cette équipe-là,
non mais il y a pas de problème. Mais tu peux pas le banaliser.
Donc forcément,
moi que tu dises aujourd'hui que c'est une normalité, je me dis qu'il y a quand même des adversaires. Moi, c'est de le banaliser en fait. Que Paris soit champion,
c'est vrai.
Je te le dis aussi.
C'est vrai sur les coupes. Moi, ce que je retiens peut-être davantage, c'est sur les coupes, parce que sur les coupes, on sait très bien que c'est toujours possible sur un match une fois de passer un tout petit peu à travers, de pas avoir la concentration nécessaire et finalement de passer à la trappe, au pénalty, etc. Ils ont le sérieux, ils ont la rigueur pour le faire. Après, sur le championnat, quand vous voyez l'effectif, franchement, je crois que si même moi, je crois que ça a déjà été dit par quelqu'un d'autre sur une chaîne où travaille Habib, peut-être même si c'est moi qui entraîne le Paris Saint-Germain, ils sont champions cette année.
C'est dire.
C'est dire. Hugo?
Oui, juste pour dire, je pense que quand même la soirée d'hier a été plutôt positive pour l'image du PSG, son image d'ogre donc qui mange, croque les petits poussés. Je pense qu'une victoire trop large aurait eu un impact négatif. Ça aurait vraiment donné une impression presque un petit peu ridicule d'un football bien trop déséquilibré, un football français bien trop déséquilibré. Là, je trouve qu'ils ont eu le bon écart, 2-0. Ouais. En même temps, comme dit Habib, ils ont fait un match plutôt appliqué. En tout cas, vu du stade, vu des tribunes, on a eu l'impression qu'ils ont pris le match matchs avec sérieux. Ils ont pris au sérieux ces joueurs des Herbiers.
Moi, j'ai
pas trouvé. Ça a donné quelque chose de relativement équilibré. Vous êtes
moi,
pas
j'ai
d'accord
pas trouvé. Non, je suis pas d'accord du tout avec cette appréciation.
Moi, je trouve qu'ils ont été plutôt appliqués.
Sur les deux niveaux. D'abord, sur le score. Je veux dire, en football, il n'y a pas de raison de ne pas gagner 8 ou 9-0 si vous êtes capable de le faire, si vous êtes très nettement supérieur à votre adversaire, ce qui était franchement le cas du Paris Saint-Germain contre les Herbiers, qui est une équipe de fin de classement de national. Et puis sur l'attitude, bon, il y a tellement d'écart qu'on peut comprendre les joueurs du Paris Saint-Germain, mais je ne les ai pas trouvés très 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 appliqués, très 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 impliqués
c'était
au début
pas le
match
du match.
Tu les as
sûr,
pas trouvés suffisants dans les comportements.
Mais ils n'étaient pas condescendants.
La condescendance en football, c'est ce qu'il y a de pire lorsque tu joues ce type de match. Et je crois que souvent, tu as vu dans des parcours en 16e de finale ou en 8e de finale où des équipes de Ligue 1 se font sortir, où tu vois ces aspects-là de condescendance, de suffisance, un petit peu. Moi, hier, je trouve que le Paris Saint-Germain, de toute façon, est conscient au début de ce match qu'ils sont bien au-dessus. Et dans les attitudes, j'ai pas vu d'irrespect de la part de qui que ce soit sur le terrain. Je les ai vus aussi aller voir l'arbitre. Donc je dis juste que bien sûr qu'on attendait beaucoup plus du PSG. Mais à la fin, ils ont un titre et c'est un titre important pour le club.
Et finalement, les gens étaient plutôt contents que les Herbiers ne se fassent pas écrabouiller.
Pour revenir sur cette Coupe de France et pour ne pas galvauder ou banaliser, je rappelle juste quand Lyon était champion de France, à truster tous les titres de champion de France.
Pendant 7 ans.
Voilà, il n'était pas capable de performer en Coupe de France.
Il n'y avait pas autant d'écart.
Oui, mais sauf que cette concentration, le PSG a une vraie histoire d'amour. Je rappelle que le premier titre de l'histoire du Paris Saint-Germain en élite, c'est la Coupe de France, c'est 82, et c'est marqué dans l'ADN de ce club. Et c'est peut-être au moins l'une des forces des Qataris, c'est de l'avoir compris et de l'avoir fait comprendre aux joueurs. Et moi, l'attitude du Paris Saint-Germain, quand Hugo, tu dis qu'ils ont bien pris la chose avant le match. Moi, l'encart presse qu'il se paye dans Ouest France et le Parisien pour féliciter les Herbiers, faire monter le capitaine des Herbiers, c'est ce genre de choses-là. Ce PSG-là, il est capable d'être puant, très clair. Non, mais c'est vrai.
Enfin, moi, c'est l'après-midi où je vais être d'accord avec personne, mais même sur cet aspect-là, je suis pas complètement d'accord. De toute façon, le Paris Saint-Germain était piégé. Moi, j'ai trouvé que
la
célébration,
c'était la nasse, hein,
pour eux, hein. J'ai trouvé que la célébration qui a été faite d'emmener donc le capitaine, qui a d'ailleurs pas tellement envie de monter recevoir la coupe avec Thiago Silva. On a bien vu donc que c'est Jean-Claude Blanc, que ses camarades qui ont été le chercher en le tirant un petit peu par le bras. J'ai trouvé que c'était un peu forcé. Puis ça avait déjà été fait.
Exactement,
mais c'est vrai aussi que si le Paris Saint-Germain l'avait pas fait, on leur aurait sans doute reproché de pas avoir associé les Herbiers à leur victoire.
Moi, je trouve qu'ils ont joué le jeu. Et la petite anecdote, juste ça, c'est plus de l'inside, mais sachez-le, c'est que pendant les deux jours avant la rencontre, en fait, le pôle média et web du PSG a embarqué tous les community managers des Herbiers, ils ont bossé ensemble, en fait, tout ce qu'a fait les Herbiers sur ses comptes réseaux sociaux. Et en fait, en gros, ils leur ont donné des clés pour l'année prochaine, pour se dire bah voilà, faites ci, faites ça, et ils ont bossé pendant deux jours. Voilà, ça veut dire aussi qu'il y avait une idée derrière la tête de se dire bon, on joue le jeu et on va au bout. Voilà, après, derrière, ce Paris Saint-Germain a fait le taf.
Après, ce que je trouve dommage, c'est de juger toujours le Paris Saint-Germain, même si, encore une fois, au vu des investissements, au vu des ambitions des Qataris sur cette Ligue des Champions. On peut considérer que si Paris était sorti, par exemple, en quart de finale.
Mais Habib, c'est eux-mêmes qui se sont mis dans ce...
Je suis d'accord avec vous,
Annie.
C'est eux-mêmes qui ont toujours dit on veut gagner la Ligue des Champions, et c'est le baromètre de ce club, et il faut que ça change. Il faut que ça soit aujourd'hui une priorité de gagner
les
titres nationaux
aussi.
Et ensuite on verra pour la Ligue des Champions. Moi, ce que je veux dire, c'est que même si Paris avait battu le Real Madrid et s'était fait sortir en quart, et par exemple n'avait pas gagné une des deux coupes nationales, aujourd'hui on serait très très dur avec le Paris Saint-Germain, quoi qu'il arrive. Donc à partir de là, on sait qu'ils doivent truster tout ce qui se passe sur le plan national. Ils l'ont fait. Ça reste une saison, pour moi, qui est une saison de qualité. Lorsque vous êtes entraîneur du Paris Saint-Germain et vous gagnez les trois titres nationaux, on peut pas le banaliser. On peut pas dire aujourd'hui qu'Emery va quitter le PSG en disant « Ouais, de toute façon, il a raté sa campagne de 2 ans au sein du Paris Saint-Germain ». Il y a eu des échecs majeurs, mais on peut pas dire qu'un coach qui gagne 6 titres
six titres
aujourd'hui, ça reste quelque chose de gratifiant,
d'important. Et justement, on va l'écouter, Unai Emery, parce qu'il ne lui reste que 2 matchs
à superviser. Il est détendu avec la presse ou pas, là?
Écoutez, il essaye même de parler en français.
Et on comprend même ce qu'il dit.
Ah bah là, maintenant, il a décidé de se faire comprendre.
Je suis très satisfait. Pour moi, toutes les choses positives, ils sont plus mieux que les choses négatives. Et je vous rappelle toutes les choses positives. Et les choses, pour apprendre les négatives, c'est une expérience pour moi. Et après, pour moi, les meilleures choses qu'il peut dire de nous, c'est que nous sommes honnêtes, que j'écoute ça, que nous sommes bonnes personnes et que nous donnons tout pour le travail ici. Et c'est le meilleur que je vais émaner de moi d'ici quand je pars.
Bon, il emmènera son français avec lui. Hugo, 7 titres en fait.
Mais oui, il faut tout faire soi-même. On ne peut pas compter sur nos consultants. Deux trophées, des champions, deux coupes de la Ligue, deux coupes de France et un championnat pour Unai Emery. Ça fait donc 7, voilà. Si je sais encore compter.
C'est encore plus gratifiant alors.
C'était bien 7 qu'on se disait depuis les années. Alors, une saison réussie pour Unai Emery, 2 ans réussis.
Ah non. Mais non, on peut pas dire ça. C'est,
non, je sais bien.
On a, le Paris Saint-Germain a misé sur le vainqueur
De Ligue Europa.
De Ligue Europa. C'était un pari. Pour moi, c'est un pari qui n'est pas réussi, puisqu'il n'a pas réussi lui-même à transcender ses équipes pour passer le cap. Il est pour moi, après derrière, pas de problème. D'abord, un entraîneur qui n'a pas eu les coudées franches, mais ça, c'est de la faute des dirigeants. Il n'a pas su imposer son style. Quand il vient dire dans les interviews, les joueurs n'ont pas répondu à mon agressivité, j'ai envie de lui dire, mais mon petit Unai, c'est aussi à toi. Je pense que José Mourinho, l'agressivité, il va la chercher lui-même chez les joueurs. Donc, il y a un moment, tu dois prendre le leadership.
Il n'y a pas les mêmes dirigeants.
Effectivement, c'est ce que j'ai dit, Abim, hein. Il y a les dirigeants. Après, il est l'auteur de la remontada. Je suis désolé, il y a 11 joueurs sur un terrain, mais il y a aussi un entraîneur qui est au bord de la pelouse.
Il est l'auteur ou la victime, peut-être.
En train de se liquéfier.
Ou le responsable.
Voilà, ou le responsable. Et du côté de Madrid, il nous tente des truc de demi-molasson, c'est-à-dire je vais changer Thiago Silva parce que je peux pas me le blairer parce que je suis en conflit avec lui, je mets Kimpembe, mais par contre il est pas capable d'aller dire à Rabiot le poste que tu vas prendre c'est sentinelle, point barre, c'est là où t'es le meilleur et tu joues il a jamais eu les coudées franches et il va repartir et là il est aigri, ça se sent dans tout ce qu'il est en train de faire en ce moment, dans toutes ses déclarations. Il est en train de poser 3-4 bombes un petit peu partout dans le club en nous annonçant que Neymar doit être le patron le patron du club, comme Guardiola City, on est chez les fous quand on lit un truc pareil. Enfin voilà, il est en train de partir,
de
ça
miner.
Va mal se terminer en fait.
Hugo.
Alors justement, si on se projette un peu sur le futur et bon, il a pas tout gagné, il a pas tout bien fait d'un point de vue comptable, d'un point de vue résultat au Unai Emery, mais est-ce qu'il a pas construit ou posé des fondations pour le futur? Parce qu'on a l'impression que c'est aussi un peu ce qui ressort de ces dernières interventions médiatiques. J'ai inculqué peut-être une culture de la gagne sur le plan national. Ces succès nationaux, ils vont permettre au club de construire, de se projeter sur des
situations. Personnellement, je ne vois pas très bien quel est l'apport d'Unai Emery. Donc,
c'est la question que je vous pose.
Parce que finalement, il est revenu, donc il est arrivé avec un système de jeu qu'il a abandonné au bout de quelques semaines.
Oui.
On se demande
les
encore,
lui ont fait comprendre
on se demande encore pourquoi, parce qu'évidemment que c'est compliqué d'être entraîneur au Paris Saint-Germain, parce que les dirigeants vous soutiennent pas énormément. Vous avez quand même le droit d'avoir un petit peu de personnalité, un petit peu d'autorité, et quand même de poursuivre sur le système de jeu que vous avez envie de mettre en place. Donc ça veut dire
si
que
les
ça va inquiéter.
Contre vous, c'est compliqué.
Ça va, mais ça va inquiéter les autres clubs européens qui vont se dire, ce gars-là, dès qu'il y a deux joueurs qui viennent le voir, il change son système de jeu, alors que il pense. Donc finalement, on est revenu au 4-3-3. Donc on est revenu à une équipe qui gagne les titres nationaux, qui est éliminé encore plus tôt en Ligue des Champions. Et là où je suis pas d'accord avec Habib, c'est que ce qu'il a montré donc en Ligue des Champions, il y a évidemment ce qu'a évoqué Bruno, la remontada, il en est le responsable puisque c'est lui l'entraîneur. Et puis là, ces deux matchs face au Real, qui était un Real moyen à ce moment-là de la saison, pas un Real génial. Franchement, le Paris Saint-Germain a pas vraiment existé. Donc l'image qu'a donné Paris, on a le sentiment plutôt qu'il régresse au niveau européen plutôt qu'il progresse.
Il a quand même proposé Habib, dans son tableau, je vais quand même pas tout noircir. Il y a quand même le plus beau match de l'histoire du Paris Saint-Germain, qui est quand même
contre
match aller contre le Barça. Mais tu te trimballeras toujours ta remontada. Mais par contre, t'as quand même un chef-d'œuvre.
Ouais, mais du coup, c'est tellement
amené,
deux images opposées que c'est peut-être compliqué aussi de comprendre.
Moi, je suis de l'avis de Bruno quand il dit que Unai Emery n'a pas réussi son challenge au sein du Paris Saint-Germain. Je suis d'accord.
D'ailleurs,
avec
il
ça.
Le garde pas.
Je continue de
ans.
Penser que c'est gratifiant de gagner les titres nationaux pour un entraîneur, qui qu'il soit en fait. Mais le vrai problème qu'on a, c'est que le baromètre aujourd'hui du PSG, c'est la Ligue des Champions. Là où je suis pas d'accord avec Étienne, c'est sur le fait de dire aujourd'hui, il incarne la remontada, du Barça, l'élimination contre un Real moyen. Moi, c'est facile de dire que le Real il est moyen il y a 15 jours, 3 semaines, et qu'ensuite on les voit en quart de finale, on dit c'est un Real génial. Moi, je pense que quand le Real vient au Parc des Princes, je vois une équipe qui est structurée sur 90 minutes, qui tactiquement est très très mûr, beaucoup plus mûr que le PSG. Donc c'est pas un mauvais Real.
Mais comme ils n'ont pas existé sur les deux
ils
matchs.
Ils n'ont pas existé. Ah non, c'est pas vrai. Ah là, je peux pas te dire. Moi, j'ai commenté le match aller pendant 80 minutes. Pour moi, le match du PSG, il est presque parfait.
Il y a deux matchs, un match aller, un match retour. Moi, il n'y a pas eu d'émotion. C'est-à-dire que si l'élimination du Paris Saint-Germain.
Mais tiens, on parle d'autre chose.
Intervenu,
tu parles de football ou d'émotion?
Était intervenu. Je parle des deux en même temps.
Ah non,
parce que le football procure de l'émotion, surtout quand il y a.
Pas tout le monde. José Mourinho a gagné la Ligue des Champions sans ne procurer aucune émotion.
Mais là où il y a, de mon point de vue, une régression, et je le regrette, je suis le premier à regretter sur la saison européenne du Paris Saint-Germain, c'est qu'on n'a pas senti la capacité donc de se transcender mentalement, techniquement, tactiquement. Il y a eu tellement de failles que finalement j'ai eu le sentiment que le Paris Saint-Germain a reculé d'une ou deux cases.
Alors justement, pour évoquer cette peut-être déception d'Étienne, et en tout cas ces limites qu'on a vues de la part d'Unai Emery, il y avait quand même ce recrutement XXL et tout ce qu'on a pu entendre du joueur qui est devenu le plus cher parce qu'il coûtait très cher à ce moment-là et qu'on l'a arraché au Barça, c'est Neymar. Est-ce que Neymar finalement a apporté au Paris Saint-Germain cette saison ce qu'on espérait de lui ?
Est-ce qu'il a déjà apporté à Unai Emery ? Non, il a plombé Unai Emery parce que Unai Emery n'a rien pu lui faire passer comme message déjà. Parce que première chance, je pense que déjà...
Il ne parlait pas la même langue peut-être.
Voilà, il parle pas... Non mais Neymar il regarde, il dit tu es qui Unai Emery ? Ah ouais, j'ai gagné, tu sais, 3 Ligue Europa.
Unai Emery a récemment dit qu'il avait eu une construction très constructive.
C'est parti des petites bombes.
Là, ces deux entretiens là, c'est super comme CV. C'est regardez, chers clubs qui vont prendre. Voilà, moi sur Unai Emery, je suis un peu tendu ces derniers temps. Après sur Neymar, il a fait vaciller en fait le 4 août. C'est le moment où le Paris Saint-Germain bascule. C'est-à-dire que c'est un petit garçon qui voit qu'il peut s'acheter l'éclair au chocolat dont il rêve, dont il passe tous les jours devant la vitrine. Il l'achète. Sauf que là, tout d'un coup, on se rend compte que la fondation du club, l'institution du club n'est pas assez forte pour prendre cette déflagration qu'est Neymar. Parce que Neymar est plus fort. L'image de Neymar est plus fort que le Paris Saint-Germain. Et ça fait tout vaciller. Et en plus, derrière, c'est un joueur à qui on a laissé, à mon avis, beaucoup trop de largesse. Et on lui a pas dit, tu arrêtes. Je sais pas, moi j'ai un fils de 5 ans et demi, il y a un moment, il y a des fois quand il commence à dépasser les bornes, je lui dis tu arrêtes.
Mais
lui,
par exemple,
on ne lui dit rien.
Tu sais quoi, tu vas t'occuper de Neymar.
Lucette de Boulogne-Billancourt, je peux te dire un truc, c'est que ça va envoyer parce que c'est moi le responsable équipe. Pardon Adjip.
Non mais là où Bruno a raison, c'est que lorsqu'on parle aujourd'hui, il dit Emery n'est rien pour moi, mais il faut se rappeler que lorsque Luis Enrique est au Barça, on peut pas considérer que Luis Enrique par rapport à son parcours avant le Barça, représente un entraîneur exceptionnel aux yeux de Neymar. Mais pourtant, Luis Enrique, lorsque Neymar est sorti des clous, il l'a pris, il lui a dit « Tu viens t'asseoir, l'institution, c'est le FC Barcelone. Le jour où tu auras compris que tu dois jouer comme je te le demande, tu retourneras sur le terrain. » Rappelez-vous, ils se sont fâchés. Oui. Pendant 3-4 matchs, Neymar est venu s'asseoir. Sauf que Paris Saint-Germain, on n'a pas été capable de le faire. Et là,
on le recrute pour.
Mais
pour
ça revient pas à l'entraîneur, ça revient à l'institution. Ça veut dire que quand Luis Enrique décide de prendre Neymar et de le poser à côté de lui, il sait très très bien qu'il n'y a personne au-dessus qui va venir le voir pour lui dire attention, qu'est-ce que tu fais, c'est Neymar, on va se poser des problèmes. Le problème du Paris Saint-Germain, c'est que même si Emery avait envisagé une seule fois d'aller dire quelque chose à Neymar, derrière, vous avez Nasser, vous avez Antero Henrique qui appelle le papa, qui dit attends, viens voir, ça va aller, on va venir te voir en vacances, on va venir te voir là-bas. Et donc, on revient à l'institution.
C'est vrai, Babi, mais moi, ce que je reproche à Unai Emery, c'est de même pas avoir essayé. Parce que finalement,
ça,
on sait pas. Mais si, on sait. Habib, il a même pas essayé. C'est-à-dire qu'il a. En tête exactement tout ce que tu évoques, c'est-à-dire que forcément Neymar c'est plus fort que lui, forcément le club s'il y a un grand conflit il va prendre parti pour Neymar et pas pour lui. Mais ce que Unai Emery il aurait pu essayer de faire, c'est que si il avait eu des résultats, si on avait senti que ça partait dans le très 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 bon sens au Paris Saint-Germain, on l'aurait peut-être laissé un petit peu de marge de manœuvre. Et comme tu l'as dit, Luis Enrique, il n'était pas un plus grand entraîneur d'Emery que Emery quand il avait Neymar sous ses ordres. Il avait quand même naturellement, personnellement, plus d'autorité.
Et Habib, toi qui vas devenir un jour entraîneur, parce que j'en suis persuadé.
Je crois qu'il l'est déjà.
Ouais. Non mais Habib, si un jour tu te retrouves dans ce cas-là, tu vas, excuse-moi, poser tout ce que t'as sur la table et dire maintenant, ça suffit.
Moi, j'en doute pas une seconde. Connaissant le caractère d'Abby.
Bah oui. Non, mais tu vas t'encadrer le joueur et te dire, si mes dirigeants ne suivent pas, c'est que j'ai pas à être là ou en tout cas, j'ai pas à avoir confiance. En fait, là, on a quelqu'un qui a calculé, qui s'est dit, je peux pas faire ça parce que là, il y a un moment où on avait besoin.
Mais c'est parce qu'il a calculé pourquoi? Parce que les précédents aujourd'hui du Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti, défaite à Reims, on l'a remis en question sur le projet qu'il essayait d'apporter au PSG. Résultat, il est parti. Laurent Blanc, tout le monde a remis en question son animation à 5 contre Manchester City. C'est-à-dire qu'on s'est servi de quelque chose qui, pour moi, peut être un problème de la part du coach dans sa gestion. Mais où aujourd'hui, tu te dis, l'institution ne peut pas être forte.
À partir du
moment où des décisions sont prises sur des faits aussi peu importants dans la vie d'un club de tous les jours, ça veut dire que l'institution n'est pas forte. Et là, aujourd'hui, on va avoir Tourelle ou autre. Si ça ne change pas en haut, il va rencontrer les mêmes difficultés que tous ceux qui étaient avant lui.
Et pour refaire le bilan de Neymar, c'est pour être très clair, le bilan sportif,
C'est quand même pas mal.
C'est quand même pas mal. C'est plutôt un bon petit joueur. Ben 27 oui. buts, 13 passes décisives.
Jusqu'au 25 février, voilà, hein, puisqu'il a plus joué depuis.
Mais sauf qu'à partir du 25 février, enfin, déjà, il y a eu une première alerte sportive face au Bayern Munich. En match de poule, là, où il n'avait absolument envie de jouer avec personne, juste avec son ego. Ils sont 11 en lui, hein, et il jouait avec son petit ballon. Il nous a refait la même face au Real Madrid. Mm-hmm. Et il y a cette blessure.
À Cavani,
et à partir de ce moment-là, on a vu le système Neymar. Et le problème, c'est que vient de se passer 9 semaines. Et sur ces 9 semaines, son image, là, je vous donne, moi, mon ressenti de suiveur du Paris Saint-Germain et de voir aussi ce que pense et discuter un peu avec les supporters, elle est chaotique. Ce qui s'est passé sur les 8 semaines, je ne sais même pas comment ça
C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il était au Brésil et il était en rééducation.
Mais il s'est barré comme il voulait. Vous vous rendez compte? On parlait d'institution. Le type est allé se faire soigner tranquille en mettant sur les réseaux sociaux toutes ses parties de poker. Il en avait rien à foutre du Paris Saint-Germain. Excusez-moi. Mais il est parti.
Mais il
a planté le club.
Tout ce que tu dis est vrai. Mais Neymar, c'est quand même aussi un champion. Neymar, c'est un joueur qui a démarré très, très jeune avec le Brésil, qui a des statistiques impressionnantes, qui gagne partout où il passe. Donc, il faut pas non plus considérer que Neymar est un problème insoluble pour le Paris Saint-Germain. Neymar, c'est un champion qui a envie d'être ballon d'or, qui a envie de tout gagner. Donc, pour moi, il y a des moyens de discuter avec lui et de le ramener un petit peu dans certains clous. Parce que lui, ce qu'il a envie, c'est d'être numéro 1. Il sait quand même, malgré tout, que c'est aussi avec les autres qui va le devenir.
Et le ramener à la raison.
Maintenant, comparer aujourd'hui l'attitude de Neymar par rapport à tous ceux qui sont ballon d'or depuis 10 ans. Donc je parle de Messi et de Ronaldo. Aucun problème sur le plan footballistique, on peut les mettre sur une ligne. Les trois, pour moi, ont la qualité pour devenir ballon d'or. Par contre, si vous analysez le professionnalisme de Messi, le professionnalisme de Cristiano Ronaldo, et vous prenez le professionnalisme de Neymar, il est à des années-lumière de ces deux joueurs-là. Et je pense qu'aujourd'hui, malgré ses qualités, il sera impossible pour Neymar d'être ballon d'or dans les deux ou trois prochaines années s'il ne change pas son mode de vie, s'il ne change pas aussi sa philosophie à l'intérieur d'un collectif. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais tous les mecs qui ont gagné des ballons d'or, tous les mecs qui ont été grands, ils ont été des hommes de collectif. Il n'y a jamais un mec qui est arrivé tout seul, qui a dit « je vais tout révolutionner ». C'était tous des mecs de collectif. Quand on parle de Maradona, tous ceux qui connaissent Maradona te disent « c'est du talent », mais par contre, il a emmené toute son équipe sur ses épaules. Et suivez-moi. Moi, pour moi, Neymar, cette année, il a été très très bon, mais à aucun match on peut dire. Il a pris l'équipe sur ses épaules, il a dit « venez avec moi, je vais vous montrer ce que c'est ». Et tu parlais du match contre le Bayern à Munich. C'est l'exemple même de quelqu'un qui n'est pas du tout dans un collectif.
Une petite question pour terminer sur le sujet Neymar et le sujet PSG. Oui, on avait plein de choses, Daniel Alves et tout, mais il faut passer à autre chose. Mais est-ce qu'il va rejouer avant la fin de saison?
Ah non. Non, je vous le dis clair, net et précis.
C'est sûr. Il est juste venu pour être dans les tribunes et encourager ses camarades.
Sur France Bleu Paris, un de ses proches m'a très clairement dit, il me fait, ah, il revient, il va faire tout le, il va aller au Stade de France, machin, mais il ne jouera même pas une seule seconde.
Oui, mais ça, c'est pas un caprice. Il est tout à fait normal et logique que Neymar ne joue pas dans la saison avec Paris.
Imagine-toi, Annie, sur le dernier match à Caen, 38e journée, Neymar rentre 30 minutes. Allez, et on nous fait une Falcao.
Mais où on nous fait une Daniel Alves, parce que c'est peut-être la dernière inquiétude du Brésil et du PSG.
Voilà, je sais pas si pour le Brésil c'est super. Enfin, en tout cas, Daniel Alves, ses dernières prestations pour le Brésil, ça fait un peu souci. Bah oui, on en parle beaucoup, mais
il sera peut-être.
C'est quand même une finale de Coupe de France. Ou sinon qu'il laisse sa place à Thomas Meunier. Daniel Alves, fallait qu'il le dise tout de suite.
Il s'est blessé hier, justement, en fin de match. On ne sait pas encore s'il est gravement blessé ou
non. C'est sûr et certain, c'est non.
On a une idée quand même de la blessure de Daniel Alves, a priori. Donc, ce sont pas les croisés. A priori, c'est moins grave qu'on ce qu'on a pu imaginer, donc il pourrait tout de même participer à la Coupe du Monde.
Merci beaucoup. Justement, Tite, il va publier sa liste lundi prochain, donc Dani Alves sera peut-être dessus. Merci beaucoup, Étienne, parce que je sais qu'il est allé ce matin passer son IRM ou radio ou je sais pas quoi à l'hôpital américain, mais on n'avait pas encore eu.
Il y a une fameuse journaliste brésilienne qui le suit beaucoup et qui a communiqué là-dessus. Ce ne sont pas des informations qui sont les miennes. Hein.
Allez, on va passer un petit peu à un autre sujet, un autre joueur, un joueur allemand.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Justement, avec la Coupe du Monde en perspective, désormais cette échéance importante, qui défendra les cages? Eh bien, pour ce qui est de la nationale Mannschaft, l'incertitude est de plus en plus grande autour de Manuel Neuer, dit le meilleur gardien du monde, si près de gagner un Ballon d'Or, on s'en souvient, en 2014. Alors évidemment, quand il y a Messi et Ronaldo devant, eh ben on n'y arrive pas, même si on est très professionnel.
On ne donne pas les Ballons d'Or aux gens qui ont des gants. Ça faut savoir, le Ballon d'Or, c'est pas fait pour les gens qui ont des gants. Oui, bah c'est justement.
Il y a bien longtemps. effectivement. En tout cas, il n'a disputé cette saison que 4 matchs avec le Bayern. Il a parlé hier soir à Manuel Neuer et il a bien conscience que la situation est inquiétante quant à la Coupe du Monde parce qu'il ne rejouera pas finalement avec le maillot du Bayern dont il est capitaine cette saison.
J'ai dû prendre place en tribune régulièrement ces derniers temps. Quand Joachim Löw était là, on a eu plusieurs conversations. J'ai aussi une relation très proche avec Andreas Köpke et on a également beaucoup discuté ensemble. Ils sont bien informés et quand ils auront quelque chose à me dire, ils me le feront savoir. Nos échanges ont toujours été très positifs et je ne sais pas encore si je ferai partie du groupe pour le Mondial.
Habib, il s'est fracturé le pied en fait, ensuite cette fracture s'est rouverte alors qu'il est revenu, dit-on, trop tôt. Est-ce que vous pensez qu'en n'ayant pas disputé de match depuis septembre dernier, c'est un joueur qui peut disputer une Coupe du Monde ?
Oui, parce que c'est Manuel Neuer, tout simplement. Si demain il est apte à s'entraîner et à être compétitif dans un match, ce qui est sûr, c'est que la Mannschaft le mettra. Je ne vois pas comment on pourrait mettre Manuel Neuer sur le banc s'il est prêt. Après, s'il n'est pas prêt et blessé, ils vont pas l'appeler du tout.
Il s'entraîne pas encore comme ses camarades, hein, même s'il est revenu.
Problème, je pense qu'il est impossible d'avoir Manuel Neuer sur le banc d'une Coupe du Monde. Donc c'est soit ils le prendront et ils jouent, soit ils le prennent pas du tout. Et à ce moment-là, ils prennent Ulreich et Kevin Trapp.
Oui.
Même si je pense...
Bon courage.
Oui. Ter Stegen peut-être.
Oui,
aussi.
Ter Stegen.
Vainqueur de la Coupe de France face aux Herbiers, monsieur Kevin Trapp.
Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un grand, grand gabarit, très lourd. Et que sur ce type de blessure, c'est très, très dommageable.
Enfin, oui. Étienne, vous le voyez, vous, revenir comme ça un peu du néant, malheureusement pour lui. C'est-à-dire, il dit, j'ai été tout le temps sur le banc avec tout le monde. Lui, il n'est pas parti au Brésil se soigner, peut-être qu'il aurait dû.
Justement, s'il était parti un petit peu dans une destination exotique pour se faire soigner.
Non, mais il était chez lui.
S'il ne joue pas les tout derniers matchs avec le Bayern, j'imagine.
Et apparemment, Jupp Heynckes a dit, il y aura un petit doute sur la finale de la Coupe d'Allemagne. Mais par contre, il ne disputera plus, en tout cas, le dernier match de championnat.
Voilà, donc, le Bayern n'a pas de soucis en championnat. Donc, si Neuer était susceptible de jouer, oui, il le mettrait. Je veux dire que tout le monde attend l'Allemagne que Neuer rejoue pour être de nouveau le capitaine de l'équipe d'Allemagne. Moi, je suis assez inquiet parce que quand j'entends les déclarations qui sont faites par le joueur lui-même, on sent qu'on prépare un petit peu le terrain à un renoncement donc du joueur et à ce qu'il soit pas dans la liste des 23. Et puis ils ont un gardien. Aujourd'hui, c'est plus tant un problème que ça pour l'Allemagne parce qu'ils ont un gardien, Ter Stegen, qui fait une saison extraordinaire
ils
avec le Barça.
Plein. Il y a Trapp, il y a Karius.
Oui,
il y a...
je préfère quand même Ter Stegen, si vous me permettez, même si Trapp a gagné la coupe avec le Paris Saint-Germain face aux Herbiers. Mais bon, la saison de Ter Stegen est remarquable avec Barcelone. Et donc, comme l'a dit Habib, de toute façon, s'il vient Neuer, c'est pour être titulaire. Donc, c'est pas pour être remplaçant. Donc, ça me paraît mal parti quand même.
Bruno ?
Moi, c'est la question que je voulais poser à Habib. Mais tu ne prendrais pas, toi, troisième, même un peu à court de forme, lui dire tu viens pousser les autres ?
Non, parce que pour avoir vécu un petit peu ça à Marseille avec Fabien Barthez, de lui-même, il avait décidé d'arrêter parce qu'il sentait qu'il avait plus cette suprématie au sein du groupe et que tu peux pas avoir une telle star, un tel monument sur le banc. Même si lui est dans un état d'esprit où il dit je vais transmettre, mais imagine pour le numéro 1, pour Ter Stegen, d'avoir Manuel Neuer derrière toi, de dire si demain je fais une petite erreur demain, toute l'Allemagne et toute l'Europe va me remettre en question parce que derrière c'est pas n'importe qui, c'est pas pim pam poum, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde.
Il est bon,
donc je crois que oui, mais je crois que c'est compliqué même pour Manuel Neuer, pour son image d'être comme ça troisième gardien de l'Allemagne quand on l'a connu à son apogée. Je crois qu'il vaut mieux ne pas du tout y aller, même si tu rates une Coupe du Monde et que je peux comprendre que le joueur a envie d'y aller, mais il a envie d'y aller pour être titulaire.
Surtout que malheureusement il a une bonne excuse qui est cette blessure récurrente et on se pose même des questions sur le fait de savoir s'il rejouera ou pas un jour. C'était une des questions qui courait ces derniers temps en Allemagne.
Mais l'équipe de France a connu ça en 2008 avec Patrick Vieira qui n'est pas apte à jouer mais qui est quand même emmené pour son expérience. À l'époque, il est capitaine, ça n'avait pas été franchement un succès. L'équipe d'Angleterre avait aussi vécu ça avec David Beckham en 2010.
L'équipe de France a
qui
connu
était venu
ça
accompagner le staff.
L'équipe
staff
de France a connu ça avec Thierry Henry quand Thierry Henry a dit qu'il ne pouvait plus parler en fait aux jeunes et qu'il avait été obligé de se mettre en retrait. Lorsqu'on a le caractère d'un Thierry Henry, c'est quand même dommageable de voir.
Mais les sélectionneurs détestent ça et d'ailleurs c'est une bonne leçon pour ce qui va se passer par rapport à la liste de Deschamps, parce que Deschamps, la dernière fois, donc, a très vite communiqué, donc, avant l'Euro, sur la blessure de Varane, en disant qu'il ne prendrait pas Varane parce que, de toute façon, il n'était pas prêt, etc., et que sa blessure était trop importante. Donc, on peut être un peu inquiet pour les joueurs qui sont actuellement blessés, parce que Deschamps connaît ce que vient d'évoquer Habib, c'est-à-dire que quelqu'un qui est blessé dans un groupe, ça pollue un peu et c'est jamais bon du tout. Donc moi, si j'étais blessé en ce moment en équipe de France, même si j'avais un peu un statut, je serais un peu inquiet.
Et moi, j'ai eu une discussion avec Roger Lemaire, qui ne trahira pas un secret, mais qui m'a dit, si un jour tu deviens entraîneur et que tu as un doute sur un joueur, abstiens-toi. Il dit, parce que j'ai vécu ça en 2002 avec Zinedine Zidane, et c'est ce qui a pollué tout le groupe France, qui était championne du monde, championne d'Europe, parce que tout le monde attendait le retour du Messi, en quelque sorte, et qu'il n'a pas du tout été apte à revenir, parce que même quand il a joué ce troisième match, tout le monde savait qu'il était à 20% de ses moyens, et je pense que c'est un petit peu ce que va vivre l'Allemagne, de se dire, si on a un doute, il vaut mieux s'abstenir, parce que ça peut vraiment polluer une compétition.
Hugo ?
Oui, après, pour l'Allemagne, ce serait un coup dur, ça fait quand même un leader en moins, parce qu'au-delà du talent, ils en ont du talent, les Allemands, mais bon, l'âme n'est plus là, Schweinsteiger est plus là, mais ils étaient des cadres en 2014, Neuer en moins, c'est au-delà du talent, vous perdez.
On les a vus à la Coupe des Confédérations,
La Coupe des Confédérations, c'est pas exactement la Coupe du Monde.
De ce point de vue-là, c'est vrai qu'il est irremplaçable. C'est-à-dire qu'il a un impact sur le groupe, il a même un impact sur les adversaires.
Surprend toujours.
Bon, maintenant, on vient de le dire, Ter Stegen, il fait une saison formidable. Il est dans un des meilleurs clubs du monde. C'est sans doute aujourd'hui un des meilleurs gardiens du monde. Donc, bon, ils n'ont pas de soucis majeurs non plus pour le poste.
Au rang des blessés, cette nouvelle communiquée par l'AFP au sujet de Dani Alves, eh bien, il est blessé et indisponible pour au moins 3 semaines. Et on est à 35 jours du mondial. Donc voilà.
Donc c'est pas les croisés.
Il va vraiment y avoir un problème entre le Brésil et le Paris Saint-Germain.
Oui,
je pense
ils vont plus s'aimer.
On va voir des avions passer au-dessus du.
On parlait de Manuel Neuer autour du Bayern. Restons-y parce que Franck Ribéry, hein, que vous connaissez bien, Habib, on va l'appeler le vieil attaquant, excusez-nous, mais c'est parce que quand même il a un âge déjà avancé pour un attaquant, 35 ans. Il vient de signer un nouveau contrat d'un an avec le Bayern Munich, qui donc a décidé de le garder. Est-ce que vous trouvez ça logique, normale d'avoir gardé Franck Ribéry, évidemment au vu des matchs qu'on a pu admirer récemment, notamment contre le Real Madrid, où on voyait Franck Ribéry qui avait 10 ans de moins.
Bah, il a surtout été le meilleur joueur du Bayern sur les deux confrontations, je pense, avec beaucoup d'impact, malgré son âge de 35 ans. Il a toujours été considéré au sein du Bayern comme un garant de l'institution. Que ça soit lui ou Robben, il n'y a jamais eu, je crois, de problème de comportement avec Franck Ribéry. Il est adoré des supporters munichois, donc vous avez tous les ingrédients. Vous avez tous les ingrédients en fait pour re-signer un joueur qui, de toute façon, va transmettre à la jeunesse, va avoir envie de jouer parce que c'est aussi le caractère de Franck. Mais je crois que c'est une très bonne chose de garder ce type de joueur lorsque vous êtes une institution comme le Bayern Munich.
On va l'entendre justement, Franck Ribéry, évoquer ce renouvellement qui le comble.
Je suis très heureux. Vous me connaissez très bien maintenant, car ça fait longtemps que je suis au Bayern. J'ai toujours souhaité y terminer ma carrière, comme je l'ai toujours dit. C'est une très bonne chose pour moi comme pour le club. J'espère qu'on fera encore une bonne saison. On peut gagner la Ligue des Champions avec un peu de chance. On a fait du bon travail jusque-là. Il reste 2 rencontres à jouer. Honnêtement, je n'imaginais pas rester aussi longtemps au sein du Bayern. On ne peut pas tout prévoir dans le football. Quand vous vous sentez bien à un endroit, vous voulez y rester pour gagner des matchs et conquérir des trophées. Je me retrouve en fin de carrière et j'ai passé beaucoup de temps déjà ici. C'était formidable. Je fais une année supplémentaire et puis on verra. Après ma blessure, j'ai travaillé. Je suis apte à 100%. Je suis très heureux de la façon dont je joue en ce moment. Je suis heureux pour moi et pour le Bayern.
Donc, d'autant qu'à son âge, il revient un peu de l'enfer. Étienne, il avait eu les deux dernières saisons où il a été souvent blessé, où on le voyait beaucoup moins sur le terrain.
Pour être tout à fait honnête, j'imaginais pas une seconde qu'il revienne à ce niveau-là. Il m'a bluffé, impressionné donc sur les derniers matchs qu'il a joué avec le Bayern, le niveau qu'il avait dans ses matchs de Ligue des Champions, parce que je suis d'accord avec Habib, c'était le meilleur de son équipe, c'était le plus dangereux, et on lui a offert une année supplémentaire de contrat au Bayern, et c'est pas de la charité hein, sur ce qu'il montre, et franchement je pensais pas une seconde que le Bayern le fasse re-signer un an non plus, donc il me bluffe à tel point qu'on est obligé de ressortir, évidemment.
Je sais ce que vous allez dire.
À quelques jours de la liste de Deschamps, bon, on n'y croit pas une seule seconde, mais si vous regardez objectivement aujourd'hui quel est le meilleur attaquant français sur un côté et sur le côté gauche, j'aurais tendance à dire que c'est
qui à droite,
hein.
Parce qu'il y a d'autres polémiques.
Kylian Mbappé peut faire ce rôle-là.
Hugo, justement, on s'est penché, ou vous êtes penché, sur ces vieux grognard qu'on rappelle dans les rangs des équipes nationales quand il y a une grande compétition.
Oui, la Coupe du Monde a été le théâtre de retour prestigieux, réussi et pas que, réussi. Et on pense et notamment
qui ont laissé des sacrées images.
Qui ont laissé des images positives comme négatives. On pense à Maradona, par exemple, rappelé à un peu moins de 34 ans en 1994, après des années difficiles, une suspension notamment pour usage de stupéfiants. Il dispute deux matchs aux États-Unis. Il marque notamment un but magnifique face à la Grèce. On se souvient de sa célébration et cette joie, cette rage à la face du monde qui éclate comme ça face à la caméra. Le problème, c'est qu'après une victoire face au Nigeria, il est de nouveau convaincu d'avoir utilisé une substance illicite. Et là, les choses vont de nouveau se compliquer pour LPB des Oraux. On pense également à Roger Milla, la légende camerounaise, la légende africaine. Il dispute deux Coupes du Monde sans âge. Effectivement, il dispute deux Coupes du Monde, 90 et 94. Après avoir arrêté sa carrière. Donc ça, c'est quand même très fort. Et évidemment, en 90, il crève l'écran avec les Lions Indomptables. Ils vont jusqu'en quart de finale. Lui, il inscrit 4 réalisations. Et en 94, il inscrit à 42 ans un but. Le parcours des Lions Indomptables, il est un peu ridicule. Mais lui, il inscrit un but à 42 ans. Il est toujours le buteur le plus âgé de l'histoire du mondial. Et puis, un retour remarqué en France. Et là, ça va nous rattacher à Franck Ribéry. Zinedine Zidane, il revient à 33 ans en 2005, après avoir pris sa retraite internationale. 33 ans, ça fera parler les superstitieux. À presque 34 ans, il aura 34 ans en Allemagne durant la Coupe du Monde 2006, où il est extraordinaire. Il produit probablement ses meilleures performances en bleu, notamment en quart de finale face au Brésil, et ça se termine un peu moins bien en finale, je vais pas vous pim pam boum. Exactement, et la Coupe du Monde 2006, c'est aussi un passage de flambeau entre Zinedine Zidane justement et un certain Franck Ribéry qui fait ses débuts en bleu.
Un commentaire ?
On le reverra pas.
Non, bleu, non, ça en effet, personne.
Il va pas être convaincu par mon argumentaire, par mes exemples.
Sur Ribéry, enfin moi je vois absolument pas Didier Deschamps.
Ribéry et Benzema, qui sont effectivement deux joueurs français, deux grands joueurs qu'on a vu très bons en demi-finale et un qui disputera la finale. Ce sont des débats un peu stériles.
C'est un débat stérile parce qu'on connaît le côté conservateur de Didier Deschamps et que si on avait un sélectionneur
Des raisons, théoriquement. Oui, non,
mais, il a des raisons, mais je pense qu'aujourd'hui, ce sont deux joueurs qui sont... alors, on le dit encore une fois, comme Étienne, on a été surpris du retour de Ribéry au plus haut niveau, mais lorsqu'on juge un joueur de haut niveau, on le juge sur des matchs de haut niveau. Mm-hmm. Et quand on voit les deux matchs de Franck Ribéry face au Real Madrid, face à Carvajal, qui est considéré comme l'un des meilleurs arrière-droits du monde, j'ai rarement vu Carvajal autant en difficulté face à un joueur. Donc, il est aujourd'hui légitime de penser qu'au vu de ses qualités, Franck Ribéry a sa place en équipe de France.
Après, sur le côté conservateur, c'est très bien que sur le côté vide groupe et autres, Didier Deschamps ne mettra même pas un pied dans cette histoire avec Franck Ribéry. Ce serait sur un match pour un éliminatoire, pas de problème sur 3-4 jours, mais je pense pas qu'il embarque avec lui Franck Ribéry.
Et encore.
Mais il est sur le côté vivre ensemble un mois en Russie.
Même une hécatombe, Thomas Lemar qui se blesse.
On serait trop surpris.
Thomas Lemar, il n'a pas besoin de se blesser, il a disparu.
Si quelqu'un de ses nouvelles d'ailleurs, n'hésitez pas du tout. Il le cherche et il y sera.
Un petit tour maintenant, chers amis, du côté de l'Espagne. Antoine Griezmann, he is the man. C'est Guillaume Ploquin qui a fait ça, Bruno,
D'où vient le sample de Antoine Griezmann?
Il est très fort, Guillaume. Très, très il arrive fort. Toujours à nous grappiller des petites choses sur lui et David. Pour ça, ils sont très forts. Alors, l'attaquant des Bleus a depuis quelques temps, des envies d'ailleurs. On le sait, il est avec l'Atlético Madrid, mais depuis 2014, il avait exprimé une ou deux fois des envies d'ailleurs après l'Euro en 2016 et puis l'an dernier. Il est quand même resté pour différentes raisons avec son club, mais voilà que l'heure de la séparation a peut-être sonné. Et ça ne plaît absolument pas à ses dirigeants, parce que le FC Barcelone a commencé à dire que c'est vrai qu'il voudrait bien l'acheter, il l'achèterait pour cher. Et du coup, le président de l'Atlético, Enrique Cerezo, est venu et a dit « Attendez, il est à moi, Griezmann ».
Je vais vous dire une chose. Griezmann est un joueur de l'Atlético à ma connaissance. Je ne peux rien vous dire de plus parce que je ne sais rien de plus.
Alors, effectivement, il est à l'Atlético, mais il reste très peu de matchs en Espagne comme en France. Alors certes, il y a une finale très importante la semaine prochaine, interdite par les transferts.
C'est vrai que ça arrive au mauvais moment.
C'est maladroit.
Mais quand est-ce que les dirigeants espagnols, je me permets de regarder dans la tambouille des copains ibériques, mais quand est-ce qu'ils vont arrêter avec leur clause libératoire, parce qu'ils sont tous en train de hurler au loup. Alors on a eu l'année dernière ce grand scandale, le PSG qui venait lever la clause libératoire, et là maintenant l'Atlético est en train de se retrouver dans la même situation avec le FC Barcelone. Mais quand est-ce qu'ils vont arrêter avec ces histoires? Si tu veux
parce
garder,
que ça veut dire que
tu la mets pas ta clause ou mets 500 millions d'euros. Il sait très bien qu'à 100 millions, Griezmann, ça passe. Il y a pas que le Barça qui peut arriver, hein. Tu peux avoir Manchester United, tu peux à ce prix-là. Maintenant, quand tu vois le prix de certains joueurs, tu sais que ça va sauter, quoi.
Est-ce que ça peut le déstabiliser, Habib? Parce qu'on sait que, alors, il est un peu dans l'œil du cyclone entre ces deux clubs, et en même temps, lui, il se concentre sur une fin de championnat pas simple pour l'Atlético, mais surtout pour une finale dans une semaine face à Marseille.
Oui, mais je suis pas sûr que ça puisse le déstabiliser. Lorsque vous êtes un joueur comme Antoine Griezmann, vous êtes habitué à chaque intersaison à entendre de toute façon votre nom pour 100 millions d'euros au Real, au Barça, donc c'est un petit peu un classique pour lui. Ensuite, ce qui peut le déstabiliser, c'est la réelle envie de Griezmann de quitter l'Atlético Madrid si on sent qu'on veut le retenir et qu'on ne le laissera pas partir. Mais comme le dit Bruno, il y a une clause. Si cette clause elle est payée,
elle est à 100 millions et apparemment le Barça est d'accord pour la payer.
Moi j'ai du mal à croire à ça. Parce que déjà, l'association Griezmann-Messi, je suis pas forcément convaincu que ça soit. Alors, ils parlent le même football, hein, ils parlent le même langage.
Oui,
mais ça veut dire qu'est-ce que vous faites de Suarez? Concrètement, Griezmann, vous pouvez faire jouer que dans
l'axe. Est-ce que c'est l'après Suarez alors?
Pourquoi tu le mets où, Suarez?
Suarez, lui-même, il accueille Griezmann avec beaucoup de plaisir. Ils ont réussi à combiner à trois, que ce soit Neymar, Suarez et Messi.
Oui,
je pense que tu
que
peux
Griezmann
combiner très bien
à trois.
À
gauche.
Tu peux très bien combiner à trois. Moi, je pense que Griezmann, il a aucun souci dans sa tête en ce moment parce que, comme l'a dit Bruno et comme l'a dit Habib, c'est une clause. C'est une clause, c'est-à-dire que vous payez les 100 millions d'euros. Et franchement, aujourd'hui, comme disait l'autre, 100 millions, c'est cadeau pour Griezmann.
Oui.
Quand on voit les transferts qui ont eu lieu donc l'été dernier.
Mais pourquoi une telle polémique finalement? Parce que
c'est une fausse polémique puisque de toute façon la clause, elle a été fixée donc par les dirigeants de l'Atlético, donc avec Antoine Griezmann. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été réduite, la clause de Griezmann. Cette saison, enfin l'été dernier, parce que il acceptait de rester une saison supplémentaire à
alors
l'Atlético,
que son club avait ne pouvait plus recruter.
Ça veut donc dire qu'ils font semblant de s'offusquer, mais ils savent très bien qu'il y aura un départ d'Antoine Griezmann si lui a envie de partir, puisqu'il y a une clause à 100 millions et il n'y a pas que le Barça qui est capable de la payer, et que si Griezmann a envie de partir, il partira.
C'est pour sauver la face face aux
supporters. Oui, bien sûr, c'est de la communication. Vous pouvez pas dire à vos supporters, écoutez, en fait, on s'était bien entendu avec Griezmann, c'était prévu d'avance qu'il partirait cette saison. Non, vous faites un peu semblant. Et ça, faire semblant. Hein,
et à noter que après, ce qu'il faut aussi pour ces dirigeants-là, c'est d'avoir déjà la solution qui va derrière.
Rechange.
Et là, par contre, je reviens du côté de mon Paris Saint-Germain. Je suis désolé, hein, mais il y a des choses qui les intéressent du côté de l'Atlético.
Cavani, même, paraît-il.
Voilà, Cavani, et même sur un ticket, Cavani, Di Maria. Ça commence à en parler. Alors, on a deux, trois
médias. Il ferait une attaque avec Diego Costa à trois aussi.
Ça serait.
S'il pouvait juste prendre Di Maria et laisser Cavani, ce serait bien.
C'est ça, mais le problème, tu connais la problématique, l'incompatibilité et d'humeur et de football entre Cavani et Neymar. Mais voilà, ça va jouer aussi ça. Ils sont en train de se renseigner, ils sont en train de regarder. En gros, il va partir Griezmann. Il a joué le jeu, il a été hyper réglo, il est pas allé à Manchester, il est resté, il a fait le taf. Ça a été compliqué en plus pour lui en début de saison.
Exactement.
Il a fait quand même un démarrage de saison avec l'Atlético. Tu peux perdre de ta valeur alors que tu aurais pu te barrer en Angleterre. Là, il va peut-être réussir à sortir par la grande porte et l'Atlético va prendre un petit ticket de 100 millions.
À 27 ans. On se souvient qu'il avait failli partir et finalement on l'avait convaincu, les dirigeants l'avaient convaincu et sûrement Simeone pour le changement de stade. Et ensuite, il y a eu cette histoire d'interdiction de recrutement pour l'Atlético et il n'a pas laissé son club.
C'est pour ça que ça va le faire et que là, il nous amuse. C'est sympa. Mais par contre, le coup des clauses, il faut qu'ils se regardent un petit peu tous le nombril parce que c'est quand même une grande, grande fumisterie cette histoire.
Hein, Habib, en quelques mots, vous le voyez s'insérer facilement, vous, dans l'équipe d'attaque du Barça?
Mais moi, le problème, c'est où est-ce qu'on met Suarez? Parce qu'on me dit qu'il va jouer en soutien de Suarez, mais c'est très souvent Messi qui est en soutien de Suarez parce que Messi ne joue pas à droite. Hein. Messi, on l'annonce à droite, mais il est toujours à l'intérieur du jeu. Donc ça veut dire qu'on va avoir quand même un petit embouteillage. Et en termes d'équilibre, je suis pas sûr que ça corresponde à ce Barça. Alors après, si on veut séparer Suarez parce qu'il a fait une saison très difficile, et je crois que, comme le dit Bruno, il y a quelques infos là-dessus.
En fait, en gros, là, on part sur un jeu de chaises musicales. Regarde bien ce qui va se passer. Tu peux peut-être perdre un Uruguayen à Paris et tu peux peut-être en récupérer un autre qui est très, très ami avec... Ah, avec Neymar, c'est son copain. Non, mais on est parti là-dessus.
Possibilité, hein. Ouais, c'est une possibilité.
Je sais que c'est de la fiction, mais attention.
Eh ben, on verra. On enregistre tout, Bruno, alors vous verrez.
Faut que ça se fasse avant le 30 juin parce qu'il y a le fair play financier. Il y a Étienne Moati qui est prêt à écrire des trucs sur le PSG, hein.
C'est la fin de ce Radio Foot. Merci beaucoup, messieurs. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin. Et il y avait Guillaume Ploquin, donc, à la réalisation. À demain.